Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Dans cette 38e émission, nous allons discuter du 21e et 22e épisode de la seconde saison de The Clone Wars, Where to Come Home and Lethal Crackdown. Voici un petit synopsis des deux épisodes. Dans le premier, lorsqu'une troupe de chasseurs de primes mène Anakin et Mace Windu dans un piège mortel sur Rancor, c'est à R2-D2 de retourner sur Coruscant pour prévenir les Jedi. Il a été écrit par Ryogan Mahoney et réalisé par Giancarlo Volpi. Dans le second épisode, après avoir cherché un jeune fugitif dans tous les bas-fonds de Coruscant, Plo Koon et Ahsoka le poursuivent sur Florum pour un duel à l'enjeu incertain. Il a été écrit par Dave Filoni et Drew Z. Greenberg et réalisé par Dave Filoni. L'équipe de Star Wars en direct a commenté ces épisodes et voici notre discussion. Bien, ben bonjour tout le monde pour cette dernière émission sur The Clone Wars pour cette année. Donc je suis rejoint comme d'habitude par Louis. Salut Louis.
Salut les enfants.
Par Thomas. Salut Thomas.
Youpi, me revoilà.
Oui, on l'a récupéré.
Et on retrouve également Pierre comme la semaine dernière. Salut Pierre.
Salut tout le monde.
On a trouvé sur un trottoir comme la semaine dernière. On est charitable.
On a fait un petit casting, il nous a plu, donc on l'a pris.
Bah on le garde pas.
Vous êtes gentil.
Après la saison 2, on le jette.
Il a couché avec qui, lui?
Hein? Il a couché avec Thomas parce que Thomas c'est celui qui nous sert de cobaye. Alors comme c'est le mal aimé du groupe, dès qu'il y a un truc à faire, on l'envoie.
Je m'en rappelle plus.
Bon bah on va.
C'est normal, t'étais anesthésié.
Ah. Bon allez, on enchaîne tout de suite.
En fait, tu devais procurer du plaisir à Thomas, toi.
Ouais, ouais mais il y avait Louis, mais t'as rien senti.
On passe à l'émission là, Louis. Non mais.
Non mais attends là, c'est quoi ces directs tout ça à cause de Thomas encore? Voilà, dès qu'il revient, de toute façon c'est le bordel.
Oh mais c'est toi qui le fous.
Oh là là.
Bon alors, la petite phrase avant que je sois encore coupé par Louis. Donc la phrase du 221, l'adversité est le vrai test de l'amitié. Alors qu'est-ce que t'as
Adversity trouvé? Adversity is a friendship's true test. Allez Thomas, pour une fois, allez. Tu vas nous dire qu'est-ce que ça signifie.
Non, je vais laisser mon Claude, moi je ferai pour la deuxième.
Bon bah d'accord, allez vas-y Pierre.
Il n'y en a pas okay, dans la
donc, ma traduction, c'était l'adversité est le véritable test d'une amitié. Donc, pour moi, ça s'applique directement à R2-D2 pour, où il va devoir aider son maître, enfin, et trouver de l'aide pour aider son maître. Tout simplement.
Ouais, voilà, c'est tout à fait logique.
Ouais, c'est très recherché.
Alors, on passe à l'histoire. Alors, c'est ton tour, Louis.
Bon, alors, au niveau scénario,
C'est plat.
Pardon?
C'est plat.
Ah, c'est plat, c'est The Clone Wars, t'es gentil, oui. Toi. Y a que Thomas pour trouver ça très chiadé, hein. Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'épisode 221, qu'est-ce qui s'est passé? Boba Fett a détruit, les réacteurs du croiseur du, de l'amiral Killian, et donc ce croiseur, vient de s'écraser sur une planète. Donc, que vont chercher à faire nos valeureux Jedi? Ils vont chercher à récupérer l'amiral Killian. En allant directement dans les pattes du croiseur pour chercher sa dépouille. Allez Thomas, qu'est-ce que t'as?
Et donc là, on arrive sur la planète Vancor. La planète Vancor que nous avons déjà rencontrée dans la duologie d'Oku capturée par les pirates. Et là où le fameux, là où ils avaient rencontré donc des Gundark, donc du coup on y retourne, on est sur Vancor. Vancor c'est une planète.
C'est quand même une belle duologie ça.
Ah oui, c'était une duologie qui m'a pas plu, j'avoue là. Je
ouais,
même
un
moi j'ai pas aimé. Hein,
moi je suis un peu mitigé quoi. J'en parlerai plus au fur et à mesure.
Donc cette planète Vancor c'est la planète originel des Gundark et donc forcément on revoit nos fameux de Gundark donc un petit effort de cohérence de la part de Filoni donc c'est très bien. C'est une planète apparemment qui apparaît également dans les romans Jedi Quest que je n'ai pas lu donc voilà encore une fois une petite référence à l'UE. Allez-y, envoyez la sauce.
Les Gundark de toute façon on en parle même dans les films.
Ils servent à rien.
Ouais, mais les Gundark sont originaires de cette planète.
Non, enfin, la cohérence, elle est surtout...
Tu peux me dire à quoi ils servent dans cet épisode?
Ah, rien.
Ah, mettre un peu d'animation.
Ouais, ouais, exactement.
C'est rigolo.
R2, c'est juste pour foutre la seule vraie action de l'épisode, presque.
Ah, voilà.
Juste pour
en
montrer.
Plus, R2-D2, maintenant, il est tellement chialé que bientôt, il va pouvoir manier le sabre laser.
Ouais, bah, c'est sûr, ça.
Tu vas voir que bientôt, il va avoir la force qui parcourt sur ses circuits.
Ah, bah, c'est sûr, là, c'est sûr que ce gars, enfin, ce droïde, ça m'a un peu, est un peu exagéré, je trouve.
Petit, mais costaud, hein.
Ouais, mais bon.
Ah, bah, c'est R2-D2 en même temps.
Ouais, mais faut pas exagérer non plus, hein. C'est... Il reste un droïde.
Je sais pas, moi, mon aspirateur, il a jamais fait autant de choses.
Donc, effectivement, R2-D2, il est un petit peu trop bon. Et même moi, j'ai reconnu que pour repousser au Racing, qui est quand même un putain de chasseur de primes, et puis Boba Fett et compagnie, c'était un petit peu exagéré. Et c'est pareil, là, quand on voit le Slave One qui poursuit R2-D2, justement, en tant que pilote, ouais. Eh ben quand même, ça a beau être un astromec, je trouve qu'il envoie un peu trop, quoi.
Ah bah oui, là,
même moi, je reconnais, même moi.
On dirait vraiment qu'il
est le meilleur. Sinon, le... je l'ai sur place, mon gars. Hein.
On dirait vraiment qu'il est le meilleur pilote, presque autant que Anakin.
Il a la force.
Non, mais il y a autant quand il y a Aura Singh et toute sa clique qui arrive pour essayer d'aller voir si Windu est mort, autant ça c'est encore plausible parce que qu'est-ce qu'il fait finalement? Il pousse simplement des caisses dans le conduit. Hein.
Ouais, mais de là à ce que ça repousse un groupe de chasseurs de primes, dont Aura Singh, c'est un peu gros, quoi.
Oui, je pense.
Bon, après, curieusement, ça m'a pas gêné, moi.
C'est pas des trucs très importants.
Attends, il y a mon Claude qui défend l'épisode. Vas-y, Pierre.
Moi, je pars du principe que dès qu'il y a R2-D2, c'est humoristique et qu'il n'y a pas vraiment besoin de cohérence, quoi. C'est un peu un épisode Jar Jar, mais en mieux, parce que c'est pas Jar Jar. C'est R2.
J'espère qu'on ne garde pas dans l'équipe. Un épisode Jar Jar, mais attends. Hein.
Ah oui, mais là c'était bien, j'ai rigolé tout le long, moi. C'était un bon divertissement. Ouais,
oui, on rigole, mais c'est nerveux, quoi, parce que c'est un peu exagéré. C'est trop exagéré. Moi, je trouve que c'est vraiment exagéré.
Bref, il y a que Thomas pour adorer ça.
Et moi.
Moi, cet épisode m'a un peu moins plu, j'avoue. C'est le moins bon, je trouve, de la trilogie de Boba, quoi.
Pour
mais
quand même,
c'est le meilleur.
Bon, putain, mais t'as vraiment pas de goût, c'est pas possible. Attends, mais... Non, parce que bon, au-delà de certains défauts, quand même, il est très dynamique. Alors, tu revois encore Boba Fett, qui va vouloir aller chercher Windu, qui a piégé Windu. Donc ça, c'est quand même pas très bon. Après,
attention, j'ai pas dit que j'avais pas aimé. J'ai dit que c'était le moins bon.
Exagéré, c'est qu'est-ce que fait R2? Quand même, rappelez-vous que R2, à un moment, il arrive devant les Gundar qui sont une espèce de cure-dent qui pue et puis ils foncent dessus, quoi. Non, mais c'est quoi, fallait le trouver, quoi. Ça, c'est encore une scène de génie, là. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, mais merveilleux, quoi.
Une autre chose qui m'a un peu gêné, c'est le fait que Anakin et puis Windu sont coincés dans les décombres et que ces cons-là, ils sont pas foutus d'utiliser la force pour sortir de là. Alors ils sont pile coincés, même pas assez écrasés, mais ils sont juste coincés, ils peuvent juste parler et appeler R2-D2. J'ai trouvé que là, pareil, ils avaient un peu poussé et que c'était un peu exagéré. Donc
ouais, là,
pareil, ça m'a gêné.
Ouais, mais là, je l'ai compris
par le
fait.
Le problème, c'est que s'ils bougent les trucs, t'as la passerelle qui s'écroule.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire.
Ouais, mais alors
les clones qui les libèrent, ils utilisent pas la force et ils libèrent Anakin et Mace Windu en 2 secondes et hop, hein,
oui, mais
c'est fait, quoi.
Tu te souviens, il y a Plo Koon et Ahsoka qui retiennent aussi le vaisseau, hein, avec la force.
Ah oui, bien vu.
Ils utilisent justement pour stabiliser le tout et justement ils se dépêchent parce que dès qu'ils s'en vont, tout s'écroule.
Ouais.
Okay. Vous avez remarqué aussi quand t'as les chasseurs de primes qui sont en train de monter pour aller chercher Windu, t'as le gros là, je me rappelle plus comment.
Alors Castas. Il s'appelle Castas, et
voilà,
c'est pas Castas.
Tais-toi, je suis en train de parler. Alors Castas, il arrive, il fait ah, et tu death trap, et là référence à l'épisode précédent. Alors là, je me suis dit, ça se trouve, est-ce que c'était pas finalement cet épisode qui devait s'appeler death trap?
Non.
Ouais, peut-être.
Attends, les mecs ils se sont plantés du nom d'épisode, non, déconne pas quoi.
Non,
ah bah, excuse-moi, toi, quand tu sors des explications par MSN, c'est pas mieux non plus.
Je tiens à dire au passage que Louis a essayé d'atteindre mon niveau d'explication et de cohérence pour The Clone Wars, mais t'étais loin du truc, hein.
Puisque Henri a cru que t'étais vraiment sur MSN, donc.
Ouais, mais justement, il a dû se rendre compte.
Non,
il s'en est rendu compte qu'à la fin.
Alors, je voudrais dire une chose quand même, Louis. tu m'as bien limité dans un sens, c'est qu'à chaque fois que, parce que j'ai écouté l'émission, bien entendu, j'ai adoré le, est-ce qu'on l'a, je suis sûr qu'il va nous écouter en plus, bah t'as eu tout juste, à chaque fois que t'as l'intervention de Thomas par MSN, j'avais quelque chose à dire, effectivement, mais c'était pas ce que t'avais dit.
Évidemment que t'avais quelque chose à dire, c'est toujours la solution à la con.
C'est vraiment, tu connais bien.
Tu prends un pet et puis t'arrives facilement à trouver des explications.
Alors, tiens, je voudrais en profiter puisqu'on parle de Castas, notre fameux clatounien. J'ai déjà entendu Louis dire, oui, les races de la trilogie, on les voit pas assez. Ben là, c'est une race de la trilogie. Donc tu dois être content, faut le dire.
Ah, tu l'as cassé.
Non, t'es pas content?
Ah, j'exulte de joie.
Ah bah, c'est bien.
Oh, bon, on voit Boss aussi, hein.
Par contre, ce chasseur de primes, donc, qui est Castas, le clatounien, donc déjà, il a une sale gueule, il est super bouin, mais à côté de ça, il est un peu, il en voit pas du gros, comme les gars, comme Boba Fett, Hora Singh, il est un peu plus trouillard, un peu moins ambitieux, et je trouve que c'est bien de nous montrer que les chasseurs de primes, il y a un peu de tout, il y a pas que des gros bœufs qui attaquent dans tous les sens, il y a aussi des mecs, qui vont un peu coolos, qui veulent que des missions sympas et qui voient pas forcément des défis partout comme Boba Fett quoi.
Ceci, j'ai trouvé ça bien. Les chasseurs de primes sur cet épisode sont particulièrement bien représentés. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un jeu de toute façon tout au long de la trilogie entre Boba Fett et Hora Singh qui est vraiment très très appréciable.
Ouais. Par contre,
c'est vraiment un instinct de protection vis-à-vis de Boba et c'est vraiment bien fait quoi.
Et en même temps, elle est dure avec lui, quoi. C'est-à-dire qu'elle le protège, mais en même temps, elle a envie de l'endurcir.
Bah, elle lui rentre bien dedans. Elle est en train de le former.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, elle a besoin d'être dure avec lui pour le former, je pense. C'est ça, quoi.
J'espère qu'on va le revoir dans la seconde saison, Boba Fett, pour vraiment le découvrir un peu plus.
Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, Boba Fett, comme il remballe le clatounien à un moment, qui lui dit, ah ouais, toi t'as rien fait, c'est moi qui ai été dans l'épisode précédent, donc c'est moi qui suis rentré dans le destroyer, toi t'as rien fait, alors arrête de te plaindre. Et on voit le clatounien qui veut le claquer à un moment, et
donc Hora... Merci d'éteindre vos portables, bande de boulets.
Et donc Hora qui défend justement Boba Fett, et ça j'ai trouvé plutôt bien, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Hein. Ça m'a...
C'est sûr que c'est une des meilleures parties de l'épisode. Moi, après...
Mais Boba Fett est très bien réussi au niveau du personnage, ouais, hein. C'est pour moi la meilleure méchante qu'on ait eu, quoi. Enfin, même le meilleur méchant qu'on ait eu.
Ce qui Boba ou Hora?
Hora. Parce que Boba Fett, il est effacé.
Boba, je ne sais pas.
Bah, il est effacé, je trouve, moi.
Je sais pas
sur dans cet épisode-là.
Boba, je sais pas sur Paul encore le
cas. Il prend sa place.
Bon, je vais y arriver, cette fois.
Vas-y.
Non, je dis que Boba, je sais pas si on peut encore tout de suite le catégoriser comme méchant, parce que là, pour l'instant, c'est plutôt Hora Singh qui est la méchante, et Boba, comme il est encore son...
Complètement, c'est un méchant en devenir, en fait.
Ouais, voilà. Donc pour moi, il est pas encore considéré méchant, quoi. Il est vraiment entre les deux, pour l'instant.
Ouais, il fait juste des attentats, il fait juste cracher des croiseurs, quoi. C'est pas encore trop dur, ça.
Ouais, mais c'est quand même... Non, mais... S'il y avait, pas eu Hora Singh... Je sais pas s'il aurait pu faire tout ça non plus, hein.
Mais ce que tu veux dire aussi peut-être, Henri, c'est pas sur tant sur ce qu'il fait, mais c'est sur son personnage, le fond. C'est-à-dire que le fond est pas hyper méchant pour l'instant, oui, et voilà. Il se retient de beaucoup de choses. Il a beaucoup d'inhibition quoi par rapport à.
Oui, par exemple, voilà. quand il va voir le clone, là, l'amiral, il lui donne à boire. On voit qu'il a encore un peu de compassion. Mmh.
Tout à fait, donc c'est vraiment le fond, c'est pas trop tant ce qu'il fait. Quoi.
Rappelez-vous tout ce que j'ai dit la précédente émission, ça reste un gamin de 10 ans. Quoi.
Ah, tout à fait, ouais. Je suis d'accord.
C'est sûr.
Bon, tout le monde, un gamin de 10 ans, tuer quelqu'un, au début, il comprend pas, enfin, il hésite, et puis à la fin, ça devient une vraie bête de guerre, donc il va en tuer quelqu'un, puis après, ça va devenir Boba
voilà,
Fett. C'est cet apprentissage-là qui permet d'avoir le Boba Fett que l'on connaît.
Faut qu'il passe le cap, quoi. Faut qu'il se fasse son premier, quoi. Puis après.
Bah, théoriquement, il a déjà fait des missions avec son papa, hein.
Ouais, mais il a pas tué, tu vois, de sang-froid, quoi, c'est ça.
Ouais.
Il posait des petites bombes, des machins, bon, voilà. Mais c'était pas direct, quoi.
Non, donc.
Sinon. Ouais, vas-y.
Non, je vais dire.
Je voulais surenchérir sur autre chose. Windu, justement, à un moment, il en parle et il se souvient que c'est le fils de Jango Fett, qu'il l'a tué sur Geonosis, etc. Donc c'était bien. J'ai trouvé que ça permettait aussi de continuer un petit peu l'histoire et de faire le lien entre, c'est-à-dire que les Jedi comprennent en fait le souci.
Super Jedi, j'arrive à deviner tout ce que je veux. Je suis médium.
Bah, il s'en rappelle, il n'y en avait pas 36 des gamins dans l'arène de Geonosis. Hein.
Non, mais je me souviens pas qu'il l'ait vu particulièrement.
Non, pas non plus, ça c'est une petite incohérence pour coller au
bon,
scénario.
Bon, on peut penser que Obi-Wan, il en a parlé sûrement, donc peut-être qu'en parlant comme il savait que c'était une sorte de clone, bon, on peut trouver toujours une explication, mais c'est sûr que j'ai pas vraiment le souvenir que Jango Fett, il l'ait dit, Mace Windu dit dans l'épisode que Boba a vu son père se faire tuer.
Il le dit.
Mais quand si on voit un peu l'épisode 2, on voit que Boba Fett est caché à ce moment-là. Donc je ne sais pas comment il a pu être sûr que le gamin il l'a vu.
Peut-être que Obi-Wan l'explique à ce moment-là.
Dans les rapports de mission peut-être. Oui.
Oui, mais Boba est caché. Donc c'est un petit détail, mais.
C'est pas la plus grosse incohérence, hein.
Non, ça, c'est sûr. si ça se résumait à ça, les incohérences de The Clone Wars, je serais heureux.
Parce que, par exemple, l'histoire du casque de Jango Fett, c'était quand même une grosse incohérence, quoi. On peut se demander pourquoi Boba, qui tient à son père, fait exploser son casque, quoi. Enfin, bon.
Peut-être parce que
c'est une incohérence, ça. Tu peux te demander pourquoi. Maintenant, on sait qu'il a pu le récupérer, ce qui était dans l'arène avec le casque.
Ouais, mais théoriquement, il est censé réutiliser l'armure de son père,
Où est-ce que t'as vu ça?
Oui, c'est un peu ça.
C'était marqué.
Ce dit,
mais après, je sais
si,
dans les,
ça, c'est ce qu'on dit, mais si on veut trouver peut-être une explication, on peut dire, ou alors il détruit un autre casque de clone, parce qu'il ressemble quand même, question couleur, ça peut être très bien un casque de clone mandalorien. Ça ressemble.
Oui, mais il y a le même choc sur le côté du casque qui se fait. Celui qui a été fait en hommage au Stormtrooper.
Si c'est ça, il y a un problème, parce que si on y pense, après, dans l'épisode 5 et 6, il a son casque éméché aussi. Une fois, on peut se dire, ouais, bon, il a cogné son casque durant ses nombreuses missions entre temps.
Ouais. Et après, pour l'armure, il peut très bien prendre le reste de l'armure et changer juste le casque, hein.
Oui, bien sûr.
Et sinon,
Thomas,
ce qu'on peut trouver.
Arrête d'influencer Henri.
Non, mais sinon, ce qu'on peut dire aussi.
En avoir une armure. Alors oui, il a refait une armure exactement comme celle de Django. Et puis après, il l'a placée dans le croiseur. Non, mais faut arrêter.
Non, mais ce qu'on peut dire aussi.
Il a utilisé le casque, il l'a fait exploser. De toute façon, le fait que tout le monde dise, ouais, à l'origine, il avait utilisé l'armure de Django Fett pour faire la sienne, c'est complètement ridicule. L'armure de Boba Fett n'est pas une armure chromée, alors il aurait dû toute la retaper.
Il a juste repeinte, en fait.
Ouais.
Non, mais ce que je voulais dire par rapport au casque, c'est qu'il a pu se dire, je vais l'utiliser pour me venger de Mace Windu, donc peut-être que c'est une sorte de sacrifice pour lui, genre d'utiliser le casque, genre pour faire en même temps passer un message, un truc comme ça.
Oui, c'est pas possible.
Bah, c'est comme par exemple, Louis, avec ta voiture tuning, à la base elle était bleu ciel ou je sais pas, métallisée, puis tu la repeins en rose, quoi. Bon, bah c'est pareil, tu vois.
C'est comme je fais pas de tuning.
Bah, l'autre jour, tu m'avais pas dit que tu faisais du tuning?
Ça va pas, hein, tu me prends pour un abruti, quoi. c'est bon, quoi. T'as fumé, hein. Je fais du tuning, non, mais attends.
Non, mais c'est
pas devant moi, quoi.
Bon, passons à la suite.
Tu fais pas du bolidage.
Et sinon, je voulais dire, dans la salle de commandement, souvent, vous savez, quand R2 retourne dans la salle avec Plo Koon et compagnie, là, on voit pas mal de Jedi en holo, et j'ai trouvé ça bien. Effectivement, maintenant, comme dans la saison, on avance et qu'ils nous ont montré de plus en plus de Jedi, maintenant, quand on voit le conseil Jedi, c'est pas toujours Kit Fisto et Obi-Wan et Yoda. Maintenant, il y a des nouveaux Jedi, enfin des nouveaux, ça se varie un peu, c'est-à-dire qu'il y avait Aldi Gallia, il y avait Ki-Adi Mundi, etc. Et je trouve ça bien.
Ça se varie, mais ils utilisent toujours ce qu'on a vu depuis le début de la saison.
Oui, tout à fait, mais du coup, c'est plus à chaque fois les trois mêmes, quoi, tu vois.
Oui, mais après, c'est les cinq mêmes.
Ce sont ceux exactement qu'on voit dans l'épisode 3 aussi, hein. À part Aldi Gallia qui est remplacé par Stracellier, mais ce sont exactement ceux qu'on voit dans l'ordre 66 de l'épisode 3.
Bah, c'est sûr.
Ils sont tous
plus importants, quoi.
Bah, c'est ceux qui savent qu'on va les retrouver, donc ils modélisent. Ils vont pas s'amuser à modéliser un personnage qu'on va voir juste une scène pendant 10 secondes.
D'ailleurs, en fin de saison, ce serait bien que tu reprennes Dark Plo Koon, là, tous les Jedi qu'on n'a pas encore vus, qu'on en reparle à la fin de la saison. J'y pense juste.
Ouais, putain.
Je trouverais c'est pas mal.
C'est le truc, c'est pas le travail fastidieux, quoi.
Alors, vous pouvez passer au visuel maintenant, ou vous avez encore des trucs à dire sur la histoire?
Ouais, bah, le visuel, ouais. J'aiderais des autres trucs à dire, mais dans les petits détails.
Oui, je le mettrai en conclusion, moi.
D'accord. Bon, moi, en tout cas, je voudrais commencer par dire que le site du crash, je l'ai trouvé vraiment impressionnant, comme décor.
Ah oui.
Très détaillé, très, très impressionnant.
Ah, ouais.
Ah oui, c'est magnifique.
Ouais. Le feu, la fumée.
Bien explosé à l'ancienne.
Ah ouais, c'était génial.
Et après, quand on voit les deux chasseurs de Obi-Wan et Anakin qui passent à côté de l'épave, c'est aussi super dessiné, super détaillé, tout ça.
Visuellement, c'est un des plus beaux. Je me demande si c'est pas le plus beau de la saison.
Oh oui, probablement, oui.
Mais même l'intérieur.
Oui, vas-y, je t'en prie.
Justement, je vais sûrement dire la même chose que toi. À l'intérieur du vaisseau, quand ils arrivent dans le cockpit et qu'on voit l'espèce de lumière là qui traverse le cockpit pété, j'ai trouvé ça mais superbe, vraiment. C'était vraiment magique.
Bon après, de toute façon toute la luminosité, bon tu sais, on l'avait déjà vu la luminosité de Vankor dans l'épisode avec Dooku, mais sinon je trouve que c'est un peu gris quand même. Mais bon, ça c'est la planète.
Moi je parlerai de Boba Fett. Vas-y. Puisqu'on le voit avec ses propres habits, et c'est des habits que j'ai adoré parce que ça me rappelle énormément le costume de Luke Skywalker quand il va sur Bespin.
Ah, pas fait attention.
C'est ce costume assez gris avec des poches un peu partout.
Et puis il avait un poncho aussi.
Oui. Ouais, mais ça.
Ouais, un voilà, poncho mais... vert et jaune.
Ouais, le poncho au début c'était une bonne idée, puis quand j'ai vu celui du jaune, je me suis dit, mais bref, son habit en tout le poncho me fait énormément penser à l'habit de Luke. Bon, après, il y a quelques notes mandaloriennes, notamment sur les protections des genouillères.
Oui. Moi, j'ai deux détails, sinon, sur les chasseurs de primes. J'ai trouvé que Busk, sa peau était mal modélisée, pas assez fin. Normalement, il a plein d'écailles, et là, je trouvais qu'on les voyait pas assez. On a l'impression que c'est comme une pâte à modeler verte, et il y a juste deux, trois petits bouts d'écailles sur sa tête. J'ai trouvé que c'était dommage, la peau faisait pas assez reptile, quoi.
Peut-être que parce que c'est encore un jeune. Il doit être super jeune, là, en plus, Bosque. Parce que
oui, bah, forcément.
Il était vraiment comparé.
Il a une trentaine d'années, en théorie.
Ouais, mais c'est fou que dans les épisodes, après, dans l'UE, il est super vieux, alors, maintenant, après.
Surtout que la moyenne d'âge, voilà, la durée de vie moyenne d'un 32 Chan, c'est 60 ans, quoi. Ouais, l'espérance de vie, quoi.
Dans l'UE, il doit avoir 100 berges, hein, au moins, déjà.
On le voit jusqu'à dans les épisodes qui se passent 35 ans après la bataille de Yavin, donc ouais, il commence à être vieux à la fin, ouais.
Parce que 35 ans, on est déjà 20 ans avant l'épisode 4, donc il a 50, ouais, il a 110 ans, même presque.
Ah oui, non, mais il grimpe vite, hein.
Thomas, une explication, s'il te plaît.
Bien, j'ai une explication. Vous voyez Michael Jackson? Vous voyez Bosque? Bah, c'est pareil.
On veut ta vraie explication. Je sais que t'as pensé à un truc. Dis-le-nous.
Franchement, là, j'avoue. Alors, bon, ok, d'accord, merci. En fait, moi, ce que je me disais, c'est que finalement... Non, parce que je l'ai, en plus, l'explication.
Mais bien sûr.
Allez, vas-y.
Mais nous, on veut l'entendre. Allez, vas-y.
Alors voilà, il s'agit d'une espérance de vie. Vous savez ce que les 32 chan, enfin quel est le mode de vie plus ou moins des 32 chan. 32 chan, c'est des mecs qui sont tout le temps en train de se battre, qui sont soit esclavagistes, soit chasseurs de primes, enfin dans tous les cas, les mecs, ça beute de tous les bouts. Donc, imaginons, l'espérance de vie des 32 chan est peut-être liée à leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils ont des forts risques de mourir jeunes parce que ils vont tout le temps se bastonner, ils vont se faire cirer par des Wookiees ou j'en sais rien. Et du coup, là, j'ai fini mon explication avant que tu ne pourrisses.
Finir.
Et donc, du coup, tous ces risques qui sont inhérents à leur race fait que leur espérance de vie est beaucoup plus courte. Mais par contre, Bosk, lui, comme c'est un boss, j'ai vu le jeu de mots,
wow.
Et ben, lui, il se fait pas fringuer. Donc, du coup, il
est c'est longtemps. Un chasseur de primes, mais comme c'est un chasseur de primes plus, et ben, il a une meilleure espérance de vie.
Exactement, t'as tout compris. Bien résumé, merci Louis qui a appuyé mon argumentation.
Non mais c'est tout à fait pourri cette explication. C'est comme si les Français voilà, avaient une espérance de vie de 60 ans parce que les militaires vont en Afghanistan, quoi. Non mais où est-ce que t'as vu ça?
Ah ouais, et l'espérance de vie dans les guerres, elle est moins importante.
Si, ça se calcule pas sur le métier.
Eh ben si, là c'est comme ça qu'ils sont calculés. Bien.
N'importe quoi. Et ça se calcule sur le fait le niveau technologique, sur enfin bon voilà, sur plein de
choses
PIB,
choisir,
etc. Ouais. Si le pays est riche, quoi qu'il arrive, si t'as un niveau de vie qui va jusqu'à 60 ans, enfin si t'as une espérance de vie de 60 ans, aller jusqu'à 110 ans, c'est pas possible. 70, 80, encore je dis pas, mais 110 ans, faut arrêter de fumer.
Ouais, sauf si le fait qu'il meurt jeune, c'est lié à une situation particulière, des risques. Quoi.
De toute façon, il y a toujours des gens qui sont de toute façon qui sortent de
l'espérance de vie chez un alcoolique qui conduit, elle est moins importante que chez un mec normal qui se déplace en vélo.
Mais attends, tu calcules pas l'espérance de vie d'une population en mais fonction des alcooliques.
Arrête, ne pourris pas mon truc, c'est incroyable. Tous les mecs, tous les mecs qui sont pourris leur épisode. Mais toi,
heureusement que t'as pas fait scientifique, hein. Sinon, c'est trop facile.
Sinon, tu as aussi l'autre alternative, te dire que c'est comme Michael Jackson qui dort dans des cocons, machin, tout ça.
Mais c'est Jeanne Calment,
dans des cocons, voilà. C'est quoi cette histoire, la con, quoi.
Bah, tu sais pas, Michael Jackson, il dormait dans des cocons, là, je sais pas quoi, pour pas vivre. Bah, parce que c'est peut-être pareil. Ça, c'est vrai. Il dormait dans du bacta.
Et Henri, est-ce qu'on peut le jeter pour la prochaine émission?
J'ai réfléchi, ouais.
J'ai pas voulu la lancer, hein. C'est toi qui l'as voulu, hein. Tu l'as eu, hein.
Ah non, mais moi je veux pas, il est trop horrible ce mec.
Ensuite, une autre anecdote pour Bosque, c'est la première fois qu'on voit un trans de Shan avec trois doigts. Parce qu'avant, il y avait d'autres personnages de cette espèce-là, c'était par exemple Ganact, celui qu'on avait vu dans la duologie avec R2-D2, qui avait été capturé, et il avait quatre doigts. Donc c'était une grosse incohérence, là pour cette fois ça a été respecté.
Et c'est la première fois qu'on voit un trans de Shan, svelte.
Aussi, oui.
Ça mérite d'être souligné, bravo. Là, c'est quand même l'information, super
putain, c'était une blague, rigole, merde, fais pas, je vous ris pas.
Non, c'est pas la spécialité de Louis.
Attends, le niveau des commentaires, quoi, plus personne va nous écouter.
Au niveau visuel, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le physique du clatounien, avec sa mâchoire qui pend devant, ses dents dans tous les sens, sa sale gueule, quoi, en gros, un peu à la Mickey Rourke, j'ai beaucoup aimé, quoi.
D'accord. Sinon, j'ai encore deux remarques en visuel et en sonore. Donc, en sonore, il m'a semblé qu'aux alentours de la sixième minute, on peut entendre à l'harmonica le thème de Il était une fois dans l'Ouest. Non. Qui est assez repris tout au long de l'épisode. Et ça me semble à peu près logique, c'est un clin d'œil, vu que Il était une fois dans l'Ouest, c'est aussi l'histoire d'une vengeance de la part d'un inconnu sur quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi pas.
On attaque les détails maintenant?
Et si on veut aller vraiment dans les détails, on peut voir à la fin le commandant Wolf, qui est donc le clone qui est rattaché à Plo Koon, si j'ai une bonne mémoire. Ouais. Et on peut voir donc que ce clone, il a une lunette de visée sur son casque. C'est une caractéristique qu'on retrouve théoriquement que chez les clones ARC. Et comme il y a une espèce de rumeur en ce moment qu'il y aurait une série télé avec les clones ARC qui vont débarquer, c'est peut-être un début de lancement. Bon, les rumeurs sur Internet, il y en a plein.
Ouais, non, mais attends, je sais pas si tu l'as vu, écoutez n'importe celle-là. Quoi, tu vas finir comme ça.
C'est possible.
Ouais, il est bien parti, en tout cas.
Pardon?
Il est bien parti pour ressembler à Thomas.
Ouais, non, bah, déjà, il a la même voix.
Ah, non, je trouve pas.
Mais j'ai adoré l'épisode, en plus.
Non, moi, j'étais un peu mitigé.
On attaque les détails? Non, je sais que lui, t'adores parler de moi. Mais... suivre. Ah, non, mais là, on était plutôt sur le visuel. Donc, dans les détails, moi, je voulais parler. Ouais, vas-y.
Moi, non, justement, je n'ai rien vu
alors,
de plus.
Toujours sur Bosque.
On va conclure l'épisode.
Toujours sur les détails, j'ai adoré le petit coup de langue de Bosque, un petite référence à l'Empire Contre-Attaque où il fait son petit coup de langue, justement, au tout début quand on le présente, et je trouvais que c'était important de faire ce petit truc parce que voilà, c'était le seul truc qu'il pouvait dire dans l'Empire Contre-Attaque, alors ils l'ont repris, quoi. Donc j'ai bien aimé. Et deux autres petits commentaires, en fait, ça concerne les droïdes. Déjà le droïde R8, donc le droïde de Mace Windu, apparemment c'est des droïdes, tu vas sûrement me dire, des PK, toi qui es calé en UE, c'est des droïdes qui parlent le basique, c'est ça?
Les R8, si on va aller par là, théoriquement ce sont des droïdes qui sont conçus par l'Alliance Rebelle après la bataille d'Endor. Donc déjà c'est une incohérence d'au moins une bonne 25 ans, et pareil pour les droïdes R7 pour Plo Koon et pour Kit Fisto. Donc à mon avis, c'est pas des droïdes R8, ce sont juste des surnoms pour des droïdes R2 parce qu'ils ont de toute façon la ressemblance d'un droïde R2 et pas d'un droïde R8 ou d'un droïde R7.
D'accord. Bon. Vous remarquerez la justification, c'est un surnom, donc pas mal des PK. Là, t'as réussi à gommer une incohérence, bravo.
Bon ben ça c'est dit, donc.
Et une autre, quand on est sur.
Les justifications sont un peu plus sérieuses que les tiennes. Hein.
Bah écoute, je m'attaque, il y a des trucs lourds à justifier, hein. Un mec qui a 110 ans alors que son espérance de vie c'est 60 ans, tu m'excuseras pour trouver un truc cohérent,
c'est pas facile. Tu préfères te ridiculiser que plutôt d'admettre que c'était complètement ridicule et que c'est une incohérence grotesque de la série.
Je n'admettrai pas que c'est une incohérence, il y a toujours des possibilités de... Voilà.
Mais ouais, ça pue, bon. Quoi, ça pue.
Ah mais merde.
Star Wars, c'est pas que super bien, bah non, t'as des grosses bouses, et d'ailleurs, ils nous l'ont montré avec le clone Wars.
Tant qu'on en est aux incohérences.
Des choses qui sont bien, mais t'as aussi de la grosse
boue. Allez, je voulais juste finir sur les astromecs. Quand R2, il retourne sur Coruscant, il bouscule deux petits astromecs, qui sont tout peuls, et ça m'a fait penser, alors je sais pas quel type d'astromec c'est, il y a un bleu et un jaune, ça m'a fait penser dans Un Nouvel Espoir au droïde rouge qui pète au milieu là quand il dit allez viens le rouge et qu'il explose.
Donc, je sais pas si c'est les mêmes. Il me semble. Non, c'est pas les mêmes, mais c'est un R3, celui qui a une forme de cône, c'est R3 le bleu.
D'accord. Et le jaune?
Bon, le jaune c'est un R5 j'imagine.
D'accord, ok.
Mais c'est pas la plus grosse, le plus grosse incohérence pour moi, c'est quand même dans cet épisode, c'est bizarre qu'on l'ait pas encore signalé, c'est le temps de voyage de Coruscant à.
Ah oui, oh là là, l'horreur.
Là, c'est instantané.
Attends, les trucs qui... Alors vas-y, moi je me balade de la bordure extérieure jusqu'à Coruscant, 5 minutes montre en main, et plus good, vite, allons sauver nos amis. Mais ça, le jour ne s'est même pas encore, n'est même pas encore tombé sur Vancouver que voici. Que voici Plocoon en train de sauver ses amis. C'est un ridicule.
J'ai même pas remarqué, mais maintenant que vous le dites. J'avais pas fait attention, et maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça, c'est bon.
Mais par exemple, il y a deux planètes qui sont à côté, c'est Florum et Vancor. On va beaucoup plus rapidement de Coruscant à Vancor que de Florum à Vancor. Bon. Les voies de l'hyperespace, des fois.
Sont impénétrables.
Voilà. Sauf pour Thomas. Thomas, explication.
Bon,
non, là, j'avoue, je donne ma langue au chat, quoi.
Mais
là.
Si, mais c'est qu'en fait, maintenant.
Ah non, là, je peux rien faire pour ça.
Des téléporteurs, c'est comme dans Star Trek.
Non, là, j'avoue, ok.
On peut peut-être passer à la conclusion, peut-être celui-là.
Allez. Si je pouvais commencer, ça m'irait très bien.
Vas-y, commence.
Voilà.
Alors, conclusion. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cet épisode très bon et parmi les meilleurs qui ont été faits. Et donc cet épisode, c'est le deuxième de la trilogie sur Boba Fett, et en cinéma, le deuxième d'une trilogie, en général, c'est celui qui est le plus dur à faire, parce qu'il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. C'est un épisode de transition. Bon, la trilogie ici, c'est trois épisodes qui n'ont pas beaucoup de trame de fond, il y a juste une histoire simple qui les lie, donc c'est pas... Voilà, Filoni, il a quand même échappé à ce problème-là en faisant trois épisodes complètement distincts. Donc l'épisode d'avant, c'était une ambiance très trilogique, comme on avait dit dans la dernière émission, avec une ambiance un peu d'infiltration, où c'était assez peu rythmé. Ici, c'est complètement différent, parce que déjà, ça sera plus rythmé, et c'est clairement pas trilogique, c'est plus prélogique, avec un côté humoristique avec R2-D2. Et ce côté humoristique, il est plutôt réussi, je trouve. Moi, ça m'a bien fait rigoler. Et à partir de là, quand on a vraiment un aspect humoristique, je trouve qu'on n'a pas vraiment intérêt à avoir un scénario très complexe. Ça tombe bien, de toute façon, c'est pas complexe du tout. Et on trouve, c'est un peu cet épisode, le schéma qu'on avait vu dans les films un peu pour les enfants, du genre « Maman, j'ai raté l'avion » ou un genre de truc, où il y a un gentil un peu sans force ou un peu plus petit que les autres qui arrive à battre un tas d'ennemis super forts. Donc moi, ça m'a bien fait rigoler. Puis je vois pas beaucoup... De problèmes. Bon, il y a quelques incohérences, comme on a vu, le casque de Django, le temps de voyage qui est vraiment super rapide, ou même...
Le casque de Django, c'est pas une incohérence.
Pour moi, c'en est une, en tout cas. Et ensuite, par exemple, les deux Jedi qui passent vraiment pour des incapables à côté de R2, ça, ce sont des incohérences. Mais bon, vu que l'épisode, il est sympathique, on peut fermer les yeux sans problème, je pense.
Bon, je vais enchaîner. Moi, je suis quand même beaucoup plus mitigé. Moi, j'ai vraiment bien... Alors que le précédent, je l'avais vraiment adoré, celui-là, ça m'a un petit peu fait l'effet d'une douche froide. J'ai toutes les péripéties avec R2, ça finit par me peser un peu trop sur le système, c'était un peu exagéré, R2 le super-héros presque, qui sait aussi bien conduire un Starfighter que Anakin, qui arrive à combattre trois Gundark et tout ça, donc ce qui m'a un peu gêné dans l'épisode. Sinon l'ambiance était sympa, le visuel était magnifique, mais... Enfin, après les incohérences, celle du casque de Boba Fett m'a pas tellement gêné. Là, vous parlez du...
C'est pas une incohérence.
C'est ce que je dis, ça m'a pas tellement gêné. Après le voyage dans l'hyperespace, pendant que vous en parlez, c'est sûr que ça fait bizarre, mais... Sinon, ouais, c'est un épisode que j'ai trouvé vraiment très moyen.
Allez. Alors, me concernant, c'est un épisode qui est tout à fait honorable, voire très bon. Ça se laisse parfaitement regarder, c'est un parfait blockbuster. Donc on passe un très très bon moment à le regarder. Par contre, c'est un petit peu long à démarrer, mais quand Boba arrive, c'est excellent. Boba, c'est le top. Visualisation excellente, personnage fouillé au niveau de son caractère, au niveau de ce qu'il fait, c'est parfait. Son jeu avec Horacing est très bien, on voit le Slave One, c'est nickel. C'est en effet une ambiance prélogique et non trilogique, mais qui est assez bien menée, et en revanche, c'est vrai que R2-D2, ça commence à me briser sévère.
Et pour finir, je dirais que cet épisode, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus, que R2-D2, effectivement, j'avoue que là, il est un peu trop balèze, ça c'est sûr, et que du coup, ça gâche presque l'épisode, et que même nos deux super Jedi, qui sont quand même Mace Windu et Anakin, ont l'air un peu cons, coincés sous leur débris, et que j'ai trouvé dommage que Racing se fasse repousser par R2-D2. C'est le moins bon, j'ai trouvé, de la trilogie, donc voilà, mais ça reste sympa, quoi, et comparé à un Jar Jar, c'est mille fois mieux.
Bien, ben nous revoilà pour le second épisode, donc Lethal Crackdown, donc on va tout de suite enchaîner par la petite phrase que j'ai traduite par « La vengeance et l'aveu de la douleur », qui est en anglais « Revenge is the confession of pain ». Donc, qui nous fait la petite explication ?
Thomas.
Mon clone, non, c'est bon, tu me la laisses ?
Allez, Thomas.
Allez, je te la laisse.
Non, merci. Non, Thomas, cette fois-ci.
Oui, ben il a dit qu'il me la laissait, donc je me fais plaisir.
T'as pas de choix, sinon on te fouette.
Donc du coup, bien évidemment, la vengeance, c'est la vengeance de Boba Fett. Et finalement, qu'est-ce qu'il avoue quand il essaye de tuer Windu? C'est que ça lui a fait beaucoup de mal qu'on tue son papa.
Oh.
Voilà. Ouf, c'est comme le mec qui a brûlé la voiture tuning à lui, bah il lui en veut un peu, quoi.
Franchement, est-ce qu'on peut l'égorger là?
Et tu vois, t'as un côté Boba Fett aussi, finalement.
C'est très, très intéressant.
Bon, bah, passons à l'histoire, allez, Louis.
Donc, au niveau de l'histoire, que fait notre cher Aura Singh? Elle va vite aller sur Floorum en amenant tous ses petits amis afin d'essayer de marchander ses otages, à savoir le général Kidian et deux clones. Et donc, son but ultime, c'est quand même d'attirer Mace Windu pour que Boba puisse se venger. Malheureusement, c'est pas Mace Windu qui va se déplacer. C'est Plo Koon avec la Ashokatana.
Alors,
justement... Et oui, c'est son grand retour, son grand retour.
Et Floorum, justement, cette planète, tout à l'heure, on avait la planète Vancor qui était en lien avec la duologie de Dooku capturé, et là, on a à nouveau un lien avec cette duologie, parce que Floorum, donc, c'est la planète où il y a le Gungan général, c'est-à-dire Jar Jar qui va libérer
nos
amis. Donc, ils ont lié la pire duologie de la saison 1 avec la meilleure trilogie de la saison 2. Et donc du coup, est-ce qu'ils essayaient de faire une moyenne? Je sais pas. Mais par contre, il n'y a pas de lien avec l'UE, parce que il me semble que Floorum, c'est une nouvelle planète qui a été invoquée par The Clone Wars.
Par contre, Henri, il a dû être vachement content, il a vu d'autres aspects de Coruscant.
On en viendra plus tard.
Non, mais je sais même pas qu'il a dit, Henri, il est tout émoustillé dès qu'il a vu Coruscant.
Non, en tout cas, si on parle de l'histoire, je sais pas pour vous, mais j'étais vachement choqué de la révélation que Racing était l'ex de Hondo. Je sais pas si ça vous choque.
Ah oui, j'ai trouvé ça rigolo, moi.
Évidemment, il y a un truc qui est pourri, toi, t'adores.
T'as dit que j'adore,
mais j'ai trouvé ça génial. Je suis sûr que t'as trouvé ça génial que le Slave One soit explosé.
Ah, on en vient.
Attends, ça c'est la fin, on en viendra après, mais... Oui. Si on parlait un petit peu de l'ex de Hora, moi j'ai trouvé ça bien, parce que Horacine, clairement, elle se l'est tapé peut-être Honda Onaka à un moment, juste pour à mon avis profiter de lui, quoi. C'est rien.
Les bâtards.
Par contre, dis donc, pour se taper un week-end, faut en vouloir quand même. S'ils sont peur.
Et en plus, surtout un loser comme Honda Onaka.
Et ensuite, donc, voilà. C'est moi où Hondo il se demande si Boba peut être son fils quand il le voit caché derrière Hora. Parce qu'après, j'ai pas une très bonne traduction de l'anglais, mais il m'a
alors il est super con, parce qu'il a pas une gueule de Wicket quand même, Boba Fett. Quoi.
Non, mais bon. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi.
Il y a un mélange entre Horacing et puis un Wicket. On a dit, ça ressemble pas trop à Boba Fett. Hein.
Je sais pas trop à quoi ça peut ressembler d'ailleurs. Du caillou gris.
La chose, des quatre fantastiques.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais gris. Gris, en fait. Ou blanc, je sais pas, visage blanc. Enfin bon. Mais oui, exactement. Je pense qu'il le dit à moitié pour rigoler, mais je pense que ça aurait pu risquer qu'il y ait quelque chose, mais bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment une partie qui m'a vraiment surpris, surtout dans une C'est bon, ça m'a pas, ça, j'ai pas du tout apprécié.
Si on part un petit peu du début, je sais pas si vous avez remarqué, mais Boba, il est hyper amer justement d'avoir loupé Windu, et ça se voit encore une fois sur son expression. On voit qu'il a vraiment une tête de dégoûté. Et au départ, justement, juste après ça, il retourne voir les clones et donc l'amiral Killian, et il essaye de se justifier auprès d'eux. Dire ouais désolé c'est pas vous que je voulais ou je sais plus ce qu'il lui dit, et Killian il essaye de le retourner et lui dire non t'es un mec bien laisse-toi pas faire etc je sais pas si vous avez noté ça au début.
D'ailleurs à le retourner,
je trouvais que c'est un, par contre je trouvais que cet aspect de était peut-être un tout petit peu exagéré quand même, le fait
pourquoi
qu'il essaie de se justifier même si c'est un gamin et qu'il est en plein entraînement, je sais pas.
Ah non, moi j'ai trouvé ça bien.
Ça faisait quand même un peu trop faible.
Un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, c'est vrai.
Ah non, je trouvais ça bien.
Légèrement un peu trop, il le faisait là cette fois-ci un peu trop soft, un peu trop faible.
Comme Louis l'a dit, il a des remords et justement ces remords, il va essayer de se justifier pour se déculpabiliser.
Faut pas déconner quand tu connais le Racing, c'est bon.
Non, je parle de Boba Fett, moi. Parce
ouais,
que
par... non, mais s'il si veut se prendre une branlée, que Aura Sim le surprend, qui a quand même...
Ouais, mais arriver. Justement, d'ailleurs, Aura, au début, elle est pas là, c'est pour ça qu'il se permet de dire ça, et quand elle arrive, elle les cire, les otages, hein. Je sais pas si vous avez vu, elle leur met des claques, et puis après, on entend des gros boum boum boum, ils doivent prendre cher, les mecs, hein.
Ouais, c'est bon. Ah bon, c'était, on parlait de Boba Fett.
Mais... Encore quelqu'un qui reste pas à la convention de Genève.
Une petite discussion entre Windu et Anakin, vous en avez pensé quoi sur Boba? Windu qui dit non mais c'est la guerre, je peux pas aller le choper, voilà, Anakin qui lui dit ouais faut le choper, faut te venger.
Voilà, ça aussi ça m'a un peu gêné parce que...
J'ai trouvé ça complètement bateau.
Oui, exactement, et en plus...
C'est même pas une question de vengeance, c'est une question de justice, il a détruit un croiseur républicain, non, il devrait être traîné en justice.
Exactement, je me dis...
C'est toujours pris le cul, on est dans le cul, voilà.
Alors la justice...
C'est pas la vengeance, c'est
pas la vengeance. De toute façon c'est immoral pour gamin, hein, c'est... C'est ah faut pas aller à la guerre c'est mauvais, faut pas se venger, c'est aussi mauvais et tout ça. Donc faut être gentil, faut être mignon et laisser les autres se prendre des raclées quoi.
La justification de Windu, c'est pas tout à fait ça selon moi, c'est plutôt qu'il dit écoute, là tu vois, c'est la guerre, on a 10 000 mecs qui nous volent dans les plumes, on a des milliers de droïdes, on n'a pas que ça à foutre d'aller chercher un gamin de 10 ans quoi.
Oui, mais ça n'empêche pas qu'il a détruit un croiseur, qu'il a tué encore
oui.
il a tué des clones pour les trucs, c'est comme une sorte de terroriste, hein. Je vois pas pourquoi il s'en mérite. Pourquoi tout d'un coup il veut pas arrêter un terroriste.
Ouais, mais Anakin lui dit on va aller le chercher et l'autre lui dit OK, si on tombe dessus, on l'arrêtera, c'est ce qu'ils font à la fin de l'épisode, mais par contre, de là à tout déployer pour aller le choper, on va peut-être pas pousser quoi.
Ouais, mais t'as pas tout d'un coup comme par hasard quand il voit quand il voit le clone se faire exécuter à l'écran, là, tout d'un coup, M. Windu, il dit qu'ils y vont, alors que c'est qu'un clone, c'est que des otages, et normalement, ils sont plus, je sais pas s'ils ont, je pense que comme c'est fait par les Américains, je pense qu'ils ont les mêmes politiques, genre, on négocie pas avec les terroristes, et là, tout d'un coup, un seul clone meurt, et ça y est, comme c'est des otages, on va les libérer, donc on va s'en mêler, mais par contre, quand ils détruisent un croiseur entier, non, on fait rien.
Peut-être que il a considéré à la base Windu que c'était pas très rationnel de la part du gamin. Ok, ça marche. J'ai tenté. Hein. On repart sur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans cette vidéo dont tu parles, Henri, quand justement Boba est censé tuer les mecs et qu'il y arrive pas.
Oui.
Et que Aura s'énerve. C'est pas compliqué, et puis elle en dégomme un, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette vidéo? Moi, j'ai trouvé ça bien, encore une fois.
C'était encore dans le too much.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est Boba qui aurait dû tirer, même si Aura Singh doit le pousser.
Oui, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Bon, d'un autre côté, on a Aura Singh égale à elle-même, c'est-à-dire qu'elle va exécuter le gars sans remords, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que...
Alors,
dans le début de l'épisode ou l'épisode précédent, mais Boba Fett, il dit carrément aux deux clones qu'il s'en fout un peu d'eux, d'ailleurs. Je me souviens.
Ouais, mais il le dit, mais de là à les tuer de sang-froid. Ah, oui, Alors, moi, ce que je pense, justement, c'est que, en fait, le truc, c'est que Boba, il n'arrive pas à passer le cap de tuer quelqu'un, d'accord? Et je pense que le jour où il va passer le cap, c'est qu'il aura une bonne raison. C'est-à-dire, il y a un mec qui va tellement l'énerver ou qui va tuer un de ses potes, etc. Et ce coup-là, il va franchir le cap et il va tuer le mec. Et une fois qu'il aura passé ce cap-là, il va devenir un vrai méchant. Mais ce cap-là, ils vont pas lui faire passer gratuitement. À mon avis, il va y avoir un événement dans une saison à venir, dans un épisode à venir. Voilà,
j'espère que ce sera sérieux, parce que je vois pas ce qui pourrait être plus grave que
ça. Ce sera plus justifié. Ouais, mais là, si tu veux, le mec, il a rien fait. Il est devant lui, c'est un otage. c'est pas encore justifié. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose, mmh. ou qui lui dise ouais ton père c'est une baltringue, ou quelque chose, j'en sais rien, ou qui attaque au Racing, et lui il va justement réagir, il va tuer le mec, et là c'est bon, oui, il aura passé le cap.
Oui, mais d'un autre côté on sait que Obafet, justement, comme il dit aux clones, il est pas comme eux, patati patata. Je pense qu'en plus les clones sont pas vraiment des humains vu qu'ils sont clones et tout ça. C'est juste des gènes. Je trouve que c'est pour lui, je pense que ça aurait été plus facile de tuer un clone qu'une autre personne. Donc s'il arrive déjà pas à tuer un clone, je vois pas comment il pourrait tuer quelqu'un d'autre.
Après, il y a une autre explication, c'est que apparemment Django, c'est quelqu'un qui avait quand même une espèce de code de l'honneur, et tuer quelqu'un qui est un otage, c'est peut-être en dehors de ce code-là.
Ouais, mais là c'était un truc pour attirer les Jedi, donc il y avait une justification derrière qui aurait pu forcer. Parce que ça peut faire attirer Mace
Windu. Oui, peut-être.
Ça fait attirer Mace Windu, donc je pense que si vraiment Boba Fett voulait vraiment tuer Mace Windu, il aurait tout fait pour l'attirer, hein, quitte à tuer le clone lui-même.
Donc... Oui, peut-être, ouais. Bon, après, ça m'a pas dérangé plus que ça.
Après, est-ce que, comme il a vu son père se faire tuer, tout ça, il sait ce que ça représente la mort, est-ce qu'il est prêt à tuer un mec comme ça, quoi, gratos, quoi? Non, je pense pas, quoi.
Peut-être passer à autre chose.
Ouais, on va passer à autre chose. T'annonces un peu les bas-fonds, là, avec Ahsoka et Plo Koon?
Ouais, donc, ils vont aller, Ahsoka, donc, découvre qu'il faut aller dans les bas-fonds. donc, ils prennent leur vaisseau. D'ailleurs, le gros truc qui m'a gêné, c'est que depuis quand on va dans les bas-fonds via un gouffre? Pourquoi un tel gouffre qui descend au fond, au bas-fond? Parce que normalement, les bas-fonds, ils sont juste en dessous, quoi. Donc,
oui, enfin, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs tunnels, et une fois dans les bas-fonds, il y a une vision d'ensemble, on voit qu'il y a plusieurs tunnels qui arrivent d'un peu partout. Donc, on peut imaginer qu'il y a certains endroits sur Coruscant qui sont comme ça.
Ouais,
moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai trouvé ça même assez joli comme concept.
Moi, je pourrais l'expliquer en disant que dans certains bas-fonds, comme les Lizzie Bubs sont rapprochés, peut-être que le gros vaisseau peut pas passer. Que là, c'est étudié pour. Il y a une très grande, un très grand périmètre qui permet que le gros vaisseau descende.
Non, mais c'est
moi, je dirais c'est ça.
D'habitude, on prend des taxis. Hein, c'est pas les bas-fonds sont pas vraiment.
Ouais, mais là, ils ont leur vaisseau et ils disent allez hop.
Généralement.
Tu vois, il y a sûrement des accès spécial vaisseau et puis des accès piétons, on va dire. Enfin, tu vois, ou petit vaisseau quoi.
Et bon, pour moi, généralement, les bas-fonds, on n'y accède pas forcément en grand vaisseau, c'est plutôt des petits taxis, des petits trucs, et plutôt des vaisseaux personnels qu'autre chose.
Justement, comme je te dis, pour moi, il y a plusieurs accès, du coup. Donc, c'est pas, pour moi, ça m'a pas gêné.
Ouais, donc, on voit Plo Koon qui a appris que les bas-fonds seraient peut-être c'était un endroit où Boba Fett allait souvent. Donc, je pense qu'ils vont aller trouver des informations. Donc, ils commencent à visiter les différents bars. Apparemment, Ahsoka est pressé, un peu comme son maître, est vraiment pressé d'en finir et de découvrir où se trouvent les Boba Fett. Donc, ils finissent par aller dans un bar. Donc, là, ils commencent à vraiment espionner. Donc,
Ahsoka... Alors, l'ambiance du bar est quand même géniale.
Oui.
Un peu boîte de nuit, tu sais, un peu VIP. Et puis, j'ai trouvé qu'il y en avait une ambiance différente, mais un peu, tu vois, peut-être pas jusque là, mais ce qui a pu être l'ambiance de Mos Eisley ou du palais de Jabba, mais version un peu boîte de nuit, et puis un peu version
de celui de l'épisode noir. 2, alors. Celui de l'épisode 2, le bar de l'épisode, de
Coruscant de l'épisode 2. Trouvé, parce que si
ouais, on... voilà, bah si, ouais, voilà, un peu celui-là, mais en plus techno, quoi, tu vois.
Avec la lumière partout, les filles, voilà, les filles qui dansent, voilà.
Moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus crasseux, parce d'ailleurs. Dans l'épisode 2, on n'entend pas vraiment de bruitage, alors que là, si vous faites vraiment attention, on retrouve un peu les bruitages de la cantina de l'épisode 4. Il y a 2-3 bruitages qui m'ont vraiment rappelé la cantina de l'épisode 4, ouais, et que je n'ai pas retrouvé dans l'épisode 2.
Donc je trouve que c'était
un mix, quoi.
Ça faisait ambiance un peu plus crade, quoi, tu vois.
C'est les bas-fonds, hein.
Ouais, voilà, c'est ça, ça faisait. Et encore, on n'est pas encore au fond des bas-fonds, quoi. C'est-à-dire que on voit quand Plo Koon y descend, il a déjà descendu pas mal, mais on voit qu'il y a encore du vide en dessous. Donc ils sont pas au pire du pire, vous savez, là dans les bas-fonds où on trouve les espèces de chauves-souris, toutes les bestioles qui grouillent en bas, quoi. Donc ils sont pas dans les trucs les plus crades, hein.
Ouais, je pense qu'après c'est presque les égouts ensuite.
Ah, je sais pas. Pour moi, il y avait plus crade encore. Et pourtant là, c'est déjà crassou, hein. Tu sais, il y a des espèces de vieilles fumées qui montent, t'as des espèces de trucs qui traînent par terre, des espèces de pseudo-tags. Et par contre, moi, ce qui m'a interrogé, c'est pourquoi il y a un laissez-passer quand on arrive dans les bas-fonds. Ouais. On a un laissez-passer si t'arrives au centre impérial, un machin, mais dans les bas-fonds, pourquoi un laissez-passer dans les bas-fonds? Justement, c'est là où tout le monde peut venir. Même les plus pourris, quoi.
J'ai pas compris non plus à quoi ça servait.
Ah oui.
À moins peut-être pour surveiller un petit peu les allées et venues pour voir s'il n'y a pas des gens recherchés ou je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est la première
fois. Je me suis pris la tête à traduire les phrases en orabèche pour voir si c'était... C'est une douane de la République Galactique qui est écrit. J'ai traduit l'orabèche et tout, mais je me suis même pas posé la question. C'est vrai que c'est un peu bizarre.
Donc là, on voit Ahsoka dans le bar qui commence à écouter les différentes conversations. Donc c'était une scène pas mal.
Et c'est plutôt bien fait parce que on voit des espèces de flash, ça part vers les personnages, on entend des petits brins de conversation. J'ai trouvé que ces moments justement où elle voit et sont vachement bien faits, quoi.
Je trouve que c'était bien aussi justement d'avoir pour une fois entendre parler des gens de tous les jours de la guerre.
Oui, puis ils parlent de rien. Des fois, ils disent de la merde. Hein. Ils disent t'as vu la fille là-bas et tout. Donc ça appuie encore une fois l'ambiance un peu vieille boîte de nuit crasseuse, tu vois. Et ça, j'ai trouvé bon quoi aussi.
Effectivement.
Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais le serveur dans la boîte de nuit, c'est encore une nouvelle race. Donc c'est un mec, vous savez, avec quatre bras, des piercings, ouais, une tête allongée. Et il s'appelle Volpai, mais par contre sur le Wikipédia ils ont pas encore donné de nom de race. Et un petit cadeau également pour Louis qu'on n'entend plus là depuis un moment. Il y a un Petrolian dans la boîte.
Petrolian, ouais.
Ouais, un Petrolian. Ouais.
C'est vraiment l'espèce de merde ça.
La scène.
C'est vraiment la pire espèce qu'ils aient jamais inventée.
C'est quoi les petits oiseaux là?
Non, c'est les petits ceux qui vont dans la piscine. Ouais. Celui qu'on avait dans Lost Saber, Light Saber Lost.
Ouais, magnifique épisode.
Et le petit rhododendron là qui va avec Cat Bane.
D'accord, ouais. Ok, ouais, c'est le petit oiseau, d'accord, ok.
Voilà.
C'est pas un oiseau, c'est un poisson.
Ah oui, je vois maintenant.
Un poisson
là, il tout là avec une carpe.
Celui qui est avec Cat Bane, il est gris, et celui qu'on voit dans le sabre laser perdu, bah c'est un, il est vert.
Ah bon, c'est
le petit pocket. Voilà, bon, c'est pour l'anecdote.
Bah, il y a aussi un des chasseurs de primes qui est de la même espèce que Kit Fisto aussi.
Un Autolan, oui, effectivement. Ça, j'ai adoré justement de voir un Autolan parce que des Autolan, à part Kit Fisto, on n'en voit jamais. Et là, ils ont modélisé un Autolan et sa morphologie est complètement différente de Kit Fisto. Il est beaucoup plus fin, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était assez cool aussi de le modéliser différemment plutôt que de reprendre Kit Fisto puis de l'enlever sa bure de Jedi et puis de le mettre normalement, quoi, tu vois.
Donc peut-être enchaînons. Donc tout d'un coup, Ahsoka tombe sur une information justement parce que le gars a écouté son ami chasseur de primes parler avec Aura de son affaire. Donc
le platoonien.
Voilà. Donc il disait qu'un de ses potes avait été tué sur Florum. Donc ça réveille Ahsoka. Donc Ahsoka, ça commence à écouter. Elle se fait surprendre. Il commence à l'attaquer. Ça oblige les deux Jedi à se révéler. Donc ils s'échappent, ils s'en vont. Donc après, évidemment,
je voulais juste noter, ce qui était marrant, c'est que Plo Koon tout le long, il lui fait la morale, il lui dit, tu sais, faut être posé, faut pas s'énerver, etc. Et le premier truc qu'il fait, lui, il sort son sabre laser quand il voit que ça dérouille.
Bah oui, mais là, il est un peu obligé. Je pense que même, pareil que dans les autres où s'il barre, même s'il dit d'aller plus doucement, si tout d'un coup Ahsoka a un problème, il est obligé aussi de réagir. Donc je pense que même dans les autres bars, même s'il a dit faut y aller plus doucement. Si Ahsoka était tombé dans les mêmes problèmes, je suis sûr qu'il a aussi réagi.
Et justement, à la fin, pour se barrer, j'ai trouvé bien vu qu'elle lance les pièces et que tous les mecs se ramassent pour prendre les pièces. Là, ouais, c'était une alternative. On va se tirer.
Ça fait très western.
C'est vraiment complètement bateau. Quoi.
Ah, c'est sûr.
Là, ça fait western. Il y a d'autres choses qui font un peu western d'ailleurs dans la suite là de l'épisode.
Non, je trouve que c'est surtout ce passage-là dans la cantine aussi qui fait western, vu que ça fait très saloon.
Et je sais pas si vous avez remarqué aussi quand ils sont dans le bar sur Florum, le bar des Wiquets, on a retrouvé la musique orientale qu'on avait justement dans la duologie de Dooku. Et je trouve que pareil, ça
nous embêtait avec sa duologie toute pourrie.
Mais je l'aime pas cette duologie, mais je souligne quand même la référence et l'effort de cohérence qu'ils font les mecs. Et surtout l'ambiance du coup qu'on a chez les Wiquets, parce que du coup cette musique, le fait de la retrouver à chaque fois chez les Wiquets, bah ça donne une ambiance, ça définit un peu une culture Wiquets, etc. Et je trouve ça bien.
Un petit peu le Maghreb de Star Wars.
Si tu veux, ouais.
Mais au lieu de concentrer un peu trop sur la cohérence entre The Clone Wars, ça serait mieux qu'ils se concentrent sur la cohérence de toute la saga, plutôt.
Ouais, mais y a rien qui dit que, quel type de musique écoutent les Wiquets, etc. Donc pourquoi pas apporter des choses en plus, quoi, construire.
Ah, je suis en train de rêver, pitié, réveillez-moi.
C'est le sou.
Quelle musique écoutent les Wookiees? Oh non, mais sérieux.
Et ils écoutent pas le Christophe Willem, les Wookiees, tu vois.
On est obligé de continuer dans le délire, là.
Donc, il a...
Au moins, si on pouvait éviter de sombrer dans le pathétique, tu vois, dans l'émission.
Donc ensuite, là, au Racing, justement, en écoutant le son chasseur de primes, en train de, qui commence à tout déballer, elle l'exécute. Donc un peu... Ça ressemble un petit peu à Han Solo, c'est-à-dire que tout le monde s'arrête, ouais. Et hop, une fois que tout le monde est... Le gars est mort, hop, ça reprend 10 secondes plus
tard. C'est normal.
Et Hondo Onaka qui dit, ouais, c'est normal, c'était une balance, alors que lui-même, il a fait la même chose, quoi.
Ah bon, je crois qu'il disait, veuillez nettoyer ça.
Mais non, mais tu sais, après, quand les Jedi, ils se pointent, il dit, ouais, elle est partie par là-bas, mais vous m'emmerdez pas, vous dites rien. Tu te rappelles pas?
Alors que lui,
il fait pareil, en fait.
Non.
Ah, bien sûr.
Par contre,
ouais, non, lui, il dénonce pas un contrat, et tout. Lui,
ouais, mais enfin bon. Il sauve bien sa gueule quand même dans l'histoire, hein.
Ouais, non, lui, ce qu'il veut, c'est que sa base soit pas inquiétée par les Jedi.
On est d'accord.
Le problème, hein. Et ça, c'est une putain d'incohérence avec, le reste des Clone Wars aussi. C'est que, alors voilà, Hondo Onaka est quand même un criminel de guerre, ouais. Qui a essayé de tuer les Jedi. Eh ben non, on arrive comme ça à l'ancienne, on va voir, salut mon patourno, t'aurais pas vu Horacing et Boba Fett.
C'est un truc qui me gêne un peu. En plus, Hondo qui tout d'un coup, qui reste neutre, comme s'il avait pas d'opinion et tout ça, il veut.
Mais à ce moment-là, les gars, c'est comme les Hutt. À ce moment-là, vous dites Hutt, il y en aurait plus dans l'univers Star Wars avec toutes les crasses qu'ils font à la République, à machin, toutes les atrocités qu'ils commettent. Mais bon, ils les gardent quand même parce qu'ils font partie de cette économie parallèle.
Non, moi, je pense qu'ils en arrêtent. Ils arrêtent bien Zero, hein. Ils l'ont bien arrêté lui. Donc, je vois pas. Je suis sûr que s'ils croisaient d'autres Hutt, maintenant, on peut dire que tout est possible. Mais c'est vrai que.
Parce qu'à ce moment, Jabba, il lui cire quand même la patte un peu aussi, hein.
Oui, bon, que vraiment que là, à force. Déjà, dans Dooku Captured, il l'arrête pas, il dit, j'ai rien contre Obi-Wan, qui dit que j'ai rien contre Hondo. Après, dans un épisode précédent, alors, quand il est en train d'exploiter les pauvres fermiers, non plus, ils font rien. Là, j'avoue qu'à force, le gars, il va pouvoir faire des meutres, il va dire, oui, vous pouvez rentrer dans ma base, elle sera toujours copain-copain. J'avoue que là, ça finit par un peu être exagéré, ce personnage qui arrive à se sortir de toutes les crasses, envers les Jedi. Il essaye même pas de s'enfuir, ouais. C'est-à-dire qu'il est sur Floor Room, il y reste en disant je crains rien.
Alors, peut-être qu'on peut dire que comme c'est Ahsoka et Plo Koon.
Mais Plo Koon c'est quand même du conseil, hein. Faut pas oublier ça, ouais. Hein, c'est quand même être Jedi du conseil, donc quand même.
Bah, curieusement, moi ça m'a pas dérangé donc.
L'échange entre Plo Koon et Hora, justement, quand ils sont sur la table, j'ai trouvé que là, ça faisait très sauce cowboy, justement.
Ah oui.
Ça m'a rappelé un petit peu l'échange entre Greedo et Yann à Mos Eisley, où tout le monde se regarde yeux dans les yeux, en attendant que ça commence à partir, et où ils préparent leur petit pistolet en sous-main, etc. Ou un peu aussi à la confrontation de Jabba et Luke, quand ils argumentent chacun de leur côté l'un après l'autre. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, quoi. Même s'il était assez court, j'ai trouvé très très bon, quoi.
Donc ensuite, tout d'un coup, Boba Fett arrive derrière Plo Koon pour essayer de le tuer, mais il n'y arrive pas. Donc là, ça m'a moins gêné que d'habitude, parce qu'évidemment, là, comme c'est un vrai Jedi et tout ça, une vraie créature, ça m'a moins gêné que le fait qu'il commence à hésiter. Donc, Racine commence à réagir. Elle envoie ses dards empoisonnés, mais Plo Koon réagit et balance la table pour les arrêter. Et là, on voit, j'étais vraiment impressionné par la réactivité de Racine qui commence à tirer, même si c'était un peu très court, mais elle dégaine comme à une vitesse folle et elle commence à faire feu. Là, quand il l'arrête, c'était assez impressionnant.
C'est pour ça que c'est un excellent personnage. C'est du bon méchant réactif, charismatique.
D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus, ils ont gardé l'idée du fait qu'elle a son casque, sa petite antenne.
Sa petite antenne, là, ouais.
Et donc, c'était un bon truc qu'il l'ait conservé, ça. J'avais un peu peur qu'ils disent que c'était juste un truc de son père, de la race. En fait, c'était une race qui avait une sorte d'antenne, mais qu'ils aient gardé le fait que c'était vraiment une antenne parabolique pour la...
Un petit lien aussi,
c'est pas pour passer des messages, par contre, hein. Il me semble que dans l'UE, c'est pas du tout pour écouter ou pour envoyer des messages. Il me semble que c'est un cadeau des Azanti pour pouvoir sentir la peur des ennemis ou un truc du genre. Mais après, bon, qu'elle s'en serve comme radio, pourquoi pas, quoi.
Tu t'en souviens plus, Louis?
De quoi?
De l'antenne de Racing, à quoi elle sert?
Non, mais à mon avis, elle sert à communiquer avec Boss, parce que t'as vu quand...
Oui, mais dans l'UE, on veut dire. Groupe.
Dans l'UE, non.
Dans les comics.
Simplement avoir une tête qui ressemble à rien. C'est déjà pas mal.
Là, il a l'air endormi, là, Louis, là.
Non, mais j'ai trop rien à dire sur cet épisode.
Par contre, dans les comics...
Seulement le fait qu'ils ont fait cracher mon
flash. Non, on en verra après, là.
Attends, on en est à la fin.
Scandaleux. Et qui c'est qui a fait ça? C'est l'autre catin. Le catin en bleu et rouge, voilà. Avec un coup de sabre laser, elle déglingue le vaisseau le plus emblématique de l'univers Star Wars. C'est scandaleux.
Bon, ils ont bien trouvé une raison pour le faire réapparaître, le vaisseau, parce que le Slavoine ne peut pas être détruit, quoi, c'est impossible. Ou alors Boba Fett la va le reconstruire, ou je ne sais pas.
Et Boba Fett, justement, qui balance des petites bombes, un petit peu comme il le faisait, il me semble, dans certains comics. Quand il est petit, il était en coop avec son père et il balançait des petites bombes, et ça j'ai trouvé assez bon aussi. Ah, bien sûr. Et ouais.
Non, je voulais juste dire que justement, en parlant justement juste de la destruction du Slav One, j'ai bien apprécié l'ambiance, enfin pas vraiment l'ambiance, mais la petite scène d'action sur la verrière avec Ahsoka. J'ai bien aimé le bruit que faisaient les lasers qui passaient à travers la vitre.
Et d'ailleurs. Juste avant.
Juste rapidement. Juste ce qui m'a un peu gêné, c'est que ça m'étonne qu'une vitre, quand même, finalement, qui est censée résister à la pression de l'espace, laisse passer un coup de laser.
Ouais, quand même, hein.
Laser, quand même. Hein. Ouais, enfin, ouais, il coupe du racier, les mecs. Et,
la course laser, je veux bien, mais un coup de pistolet laser, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait plutôt ricocher qu'autre chose dans.
Ouais,
parce que, n'oublie pas que même une fois des turbo lasers qui tirent sur d'autres vaisseaux, même quand il y a plus de boucliers, ils arrivent toujours pas à avec toutes les vitres qu'ils ont, ils arrivent toujours pas à les détruire.
Et le très très bon juste avant, moi aussi, c'est que j'ai aimé beaucoup, c'était la course en moto speeder, qui m'a un peu fait penser au Retour du Jedi là quand ils sont sur Endor. Sauf que là ils ont des sabres laser et qu'il y a des plans de fou, quoi. Parce qu'autant sur le Retour du Jedi, bon, c'est des plans assez fixes, autant là la caméra elle bouge dans tous les sens, on a vraiment une impression de dynamisme de dingue, et j'ai trouvé cette petite course vraiment sympa, même si encore une fois elle est très courte. C'était encore un élément en plus à ajouter, je trouve, au palmarès de cet épisode, quoi.
Moi j'ai plutôt pensé à la course des pods, moi, parce que c'est exactement.
Oui, pareil, oui. Parce qu'il y a un endroit de la course sur Tatooine où c'est exactement pareil, c'est des petits tunnels qui sont ouverts au-dessus,
voilà,
et les plans sont les mêmes et tout, quoi. Donc,
les canyons, tu veux dire.
Ouais.
Voilà, dans la zone des canyons.
C'est pour ça que j'ai vraiment pensé à ça plutôt que la course sur Endor.
Bah, c'est les motospeeders qui m'ont du coup rappelé.
Au niveau du son, c'est pareil que le dernier film, oui.
Oui,
le son, c'est les mêmes.
C'est des speeders, donc je pense qu'ils ont repris les mêmes bruitages, hein, c'est sûr. Vous n'allez pas en faire à reprendre. Entre un speeder et un pod, il n'y a pas le même bruit de moteur. Donc, ensuite...
Le final,
donc Boba Fett est arrêté. Il arrive pas.
Attendez, justement, le Slave One et Henry, Louis voulait en parler, là.
Bah, on en peut parler, là, donc...
Moi, je sais que, justement...
Tu as dit que c'était un scandale, tu trouves ça bien, toi? C'est merveilleux.
J'avoue que j'ai vraiment
Allez, je fais un coup de laser, ça peut être directement les... Ça fait directement la vitre, et où est-ce qu'il est, le bouclier déflecteur? Où est-ce qu'il est? Et il se donne un coup de ça, ouais, vas-y, et voici qu'il y a une palme qui s'en va, c'est n'importe quoi. L'explosion laisse pratiquement aucun doute sur le fait qu'il a été totalement détruit, c'est aberrant, c'est n'importe quoi.
Cette scène où ils sont justement dans cette grande arène, un petit peu avec Ahsoka contre le Slave One, ça m'a fait penser un peu, vous savez, dans les jeux vidéo, par exemple, je pense au Pouvoir de la Force, moi je suis en train de le faire en ce moment, où à la fin tu tapes un gros boss, t'as ton petit personnage avec le sabre laser et tu dois laminer un gros boss, tu lui sautes dessus et tout. Et ça m'a vachement fait penser un peu à un jeu vidéo, ça, c'est ce combat final là.
Ouais. Enfin bon, c'est ça que moi aussi, quand j'ai vu tout d'un coup le Slave One se faire écraser, je me suis dit mais qu'est-ce qui nous a encore sorti ces abrutis? Surtout que je vois pas comment Racing non plus a pu avoir le temps de s'en sortir. Bon, ils vont trouver sûrement, comme plein de séries, ils vont sûrement trouver la feinte invraisemblable.
Ah oui.
Mais bon, si tout d'un coup,
c'est un, impossible, c'est impossible qu'ils disent le Slevoine est détruit, puisqu'ils savent très bien qu'il revient dans l'Empire contre-attaque. Mais George Lucas, il le vire.
En gros, ça va être une épave et Boba Fett va le récupérer, le reconstruire à zéro, un truc comme ça, quoi, ils vont dire.
Ah ouais, puis l'améliorer, tout ça, ou autre chose, Boba Fett, quoi, mais ils vont le justifier.
Après avoir été libéré, il sera retourné sur la planète, il aura vu l'épave, il aura fistolé tout seul. À la sueur de son front, avec l'aide de Hondo Naka, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs, on le retrouve, retourner sur Florum, et qui demande l'aide de Hondo Naka pour récupérer l'épave et la reconstruire.
En échange, il lui aura arrangé un coup avec son ex au Racing, enfin, tout ça, quoi.
Ah, bien sûr.
Mais j'avoue que ça m'a vachement choqué, ce moment-là. Donc ensuite, Boba Fett est arrêté. Il arrive pas. D'ailleurs, je me demande comment il peut.
Et Bosque aussi.
Ouais. Mais bon, oui. Quand même foutre Boba Fett en prison, c'est aussi
un gamin de 10 ans.
En plus, déjà que c'est un gamin, mais en plus, ça m'a quand même vraiment surpris.
Non, mais en plus, ils l'ont séparé de Racine, ça commence à bien faire, quoi. Mais alors, ils ont intérêt dans la saison 3 de mettre directement un épisode où Racine va récupérer et tout ça.
Bien sûr.
Du grand n'importe quoi, Captain va revenir en force. Parce qu'il aime bien libérer les gens des prisons, donc il va revenir, il va libérer tout ça, mais... Oh là là, j'ai déjà vu 100 fois, quoi.
Ben c'est sûr,
c'est le pro pour ce genre d'opération. Le Racing va aller chercher Cad Bane. Et de toute façon, avec tous les mecs qu'ils ont mis en prison dans les deux saisons, entre tous les séparatistes, entre Pogol le Bref, du coup, j'ai perdu les autres noms.
Il y a Wattembor, il y a
Wattembor, il y en a plein. Nut Gunray, ils sont 15 000 dans les prisons. Donc dans tous les cas, plus tous les chasseurs de primes, ils vont aller les chercher, ils vont débourrer tout le monde, et puis voilà.
Je pense que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un grand épisode où ils vont tous s'enfuir ensemble.
Bah pourquoi pas le téléfilm d'avant la saison 3, ce sera probablement ça. Au lieu d'être tourné sur Boba Fett, puisqu'on l'a eu, ce sera ça.
On n'a plus aucune nouvelle pour l'instant, mais je pense qu'ils auraient plutôt annoncé le téléfilm avant de nous sortir la bande-annonce de la saison 3. Je pense que pour eux, ça aurait été fait.
Ça arrivera en bonne.
Parce que je les vois pas.
Le téléfilm sera ça, quoi.
Je les vois pas présenter la saison 3 avant que devait nous sortir un téléfilm. C'est pas logique pour la pub.
Mais parce que le téléfilm, oui, il est hors.
On s'en fout, on va pas parler de la saison 3, je veux rien savoir. Allez.
Donc,
visuel.
C'est classique, quoi. Il
y a un truc qui est énorme, dynamique. La cape de Plo Koon. Ils se sont quand même pas fait chier, ils ont récupéré la cape de Barry Sophie, et lui ont mis dessus, et ça ressemble à rien.
Ouais. Sinon,
j'avais pas vu.
Il y a vraiment un moment de visuel que j'ai vraiment aimé, c'est le Slave One, justement, qui atterrit sur Florum avec le grand coucher de soleil. Hein. Quand il commence à virer de bord et qu'il atterrit, j'ai vraiment, vraiment adoré.
Non, mais sur la boîte de nuit, les couleurs et tout, c'était génial. C'est que ces couleurs vivent sur le fond un peu obscur, j'ai trouvé ça génial, quoi.
Oui, pas mal, effectivement, oui. De toute façon, l'ambiance des bas-fonds était bien rendue, je trouve.
C'est génial, quoi.
Le ressentent de manière générale, c'est beau, hein.
Oui. J'en sais quelque chose.
Ouais, hein.
Donc, ensuite, je vois pas tellement de trucs à dire sur le visuel, parce que Floro, on l'a déjà vu, donc, la luminosité, on la connaît. Après, les personnages, c'est toujours les mêmes, donc il y a pas vraiment de nouveaux trucs à voir. Donc, je sais pas si vous avez d'autres trucs à noter sur ce côté-là. Vous.
Bah, le côté visuel, il y a la reprise du massif, qui est théoriquement l'espèce de chien de garde des hommes des sables. Bon, c'est un bon clin d'œil. Et ensuite, au niveau visuel aussi, il y a le bureau de Hondo Hanaka, qui est une reprise de plein d'objets de tous les épisodes qu'on a pu voir avant. Avec les lampes de Coruscant, des vases qu'on peut voir sur la planète où il y a Ayla qui se crache. Enfin, c'est un petit recueil de tout ce qu'on a pu voir avant. Donc bon, c'est un clin d'œil sans plus.
En gros, il a récupéré ça de ses pillages, en fait.
Il y a un truc en visuel aussi, c'est un moment quand ils sont dans le bar de Hondo Hanaka, que t'as Boba Fett qui est en train de braquer Plo Koon et que t'as Ahsoka qui arrive. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont joué avec le jeu de lumière et la poussière. Et là, tu voyais toute la poussière à travers le rayon de soleil, comme si c'était chez toi, et des fois avec quelques poussières qui s'illuminent et qui passent devant le soleil et tout, c'est incroyable.
Faut faire attention.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Donc, sinon, c'est pas vraiment le visuel, mais je sais pas si vous avez peut-être fini.
J'ai plus rien à dire, moi.
Donc, moi, j'ai une petite note par rapport à la musique. C'est la fameuse musique avec le cœur gentillé. Enfin, le cœur gentillé, dès qu'on parle de Boba Fett. Elle était belle une fois, mais là, ça fait au moins 4-5 fois qu'ils nous l'affichent sur deux épisodes. Je trouvais que c'était un peu trop réutilisé. Elle est jolie, la musique, mais trop... Ils l'ont vraiment réutilisé à chaque... Dès qu'on parle un peu de Boba Fett, comme quoi il veut venger son père, on la ressort.
Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime
pas. Ah oui, elle est bien, mais
je veux dire, finalement,
trop utilisée. Donc, c'est un peu la seule note que j'ai notée. Un peu pour les petits détails que j'ai notés.
Sinon, en petit détail, pour le final, on a aussi... pour le coup, je trouve que cette... cette fin de l'épisode, quand ils amènent tout le monde à la prison, on a l'impression que ça met vraiment un point final à la saison, même aux deux saisons. C'est-à-dire que pendant les deux saisons, il y a eu de la guerre des clones, on a foutu des mecs en prison, et on sent que pour la troisième saison, il va y avoir le retournement de situation. Et là, vraiment, on a la vraie fin, comme si on finissait une première partie, une première ère dans la guerre des clones, et qu'après, il va y avoir le retournement de situation.
Ouais, enfin, théoriquement, la fin d'une saison, c'est censé amener la suite, et là, c'est vrai qu'on a quand même... Il manque une relance...
C'est
voulu, parce que je me dis, si tout d'un coup, ils sont obligés d'annuler la série, peut-être qu'ils veulent pas non plus laisser les... Je crois pas que les séries jeunesse soient vraiment très portées sur le cliffhanger.
Bah si, parce que regarde, la saison 1, ça faisait un peu cliffhanger, justement. T'avais Cad Bane qui apparaissait, qui se barrait, tu te dis putain, il est génial ce perso, j'ai envie de le voir, etc. Et c'était un cliffhanger pour moi la saison 1, la finale, que là au contraire c'est hop on coupe. Et là où je suis pas d'accord avec toi Henri, c'est que la saison 3 elle est déjà pliée, donc ils savaient que la 3 ils vont la faire, donc c'était pas au cas où ils vont l'arrêter. Ils savent qu'il y aura un moment où il faudra faire sortir ces mecs, donc
ouais, c'est sûr.
Pour moi non, ils voulaient le finir le
même la première saison. J'ai pas vraiment trouvé que le dernier épisode faisait très très cliffhanger.
Bah plus que là en tout cas. Que là c'est vrai que t'as l'impression que c'était... En fait, ils ont gagné la guerre des clones comme ça, un peu, quoi.
Ouais, si on veut. Si on veut. Bon, d'autres petites notes, ou on passe à la conclusion, peut-être ?
Bon, on peut passer à la conclusion, je pense.
Allez, qui se lance ? Allez, Thomas, vas-y.
Ouais. Alors, moi, j'ai adoré cet épisode. Il était génial pour moi. Que ce soit au niveau de l'ambiance, j'ai retrouvé plein de références... au vrai Star Wars que j'adore, que ce soit quand ils sont dans le bar à Hondo, que ce soit quand ils vont dans les bas-fonds de Coruscant dans la boîte de nuit, que ce soit le Boba Fett un peu avec ça dans sa relation avec Cora Singh, que ce soit la petite baston là quand ils sont dans le bar à Hondo là où ça part à toute vitesse entre Plo Koon et puis Cora Singh, que ce soit leur discussion autour de la petite table, que ce soit la course en speeder, même la baston avec le Slave One, si même je vous l'accorde, on peut déplorer que le Slave One est peut-être cassé. Moi j'ai pris mon pied tout le long sur cet épisode, j'ai adoré et je pense que c'est même il y a tellement de choses que j'aime dans Star Wars que je pense que c'est même mon épisode préféré des deux saisons et de tous The Clone Wars pour l'instant. Voilà.
Allez Pierre, enchaîne.
Donc moi, j'ai aimé pas mal, mais ça sera donc le moins bien de la trilogie Boba Fett.
Voilà.
Je sais pas vraiment pourquoi.
C'est bien, c'est l'objectif.
Donc il y a quand même quelques plus. Par exemple, c'est un épisode qui est quand même assez rythmé, puisqu'on voit quand même on change de lieu, on va sur différentes planètes. Il y a quelques bons trucs, par exemple Hondo qui essaye d'enseigner un peu l'honneur des chasseurs de primes à Boba Fett. C'est un bon point, mais sans plus. Niveau graphique, c'est beau. On peut le voir avec Coruscant, on peut aussi le voir avec la décharge de Floorum où il y a beaucoup de détails, où il y a des jeux de lumière. C'est un bon plus qui est bon quand même observable sur toute la saison 2. Bon, après il y a quelques moins, par exemple bon le crash du Slave One comme on l'a dit. Bon, même si c'est vrai que dans le lieu quand même le Slave One il se prend quand même tout le temps des shoots, que dans Dark Empire il se fait complètement détruire, qu'il se fait remplacer par le Slave 2, le Slave 3, le Slave 4, il se fera récupérer le Slave 1 pour redevenir le Slave 5. Enfin bon. Boba Fett, il était quand même habitué à changer de vaisseau, à se faire détruire, à se faire reconstruire. Donc pour moi, c'est pas vraiment un gros problème. Bon. Ensuite, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, donc tout le monde part en prison et tous les gros ennemis se retrouvent au même endroit. Donc ce qui est évident que la saison 3, il y aura quand même une évasion massive. Et ensuite, bah, globalement, moi j'ai trouvé Boba Fett trop gentil dans la trilogie. Et c'est ce qui m'a un peu déçu, quoi.
Donc pour moi, je l'ai préféré au précédent comme épisode, mais j'étais quand même mon préféré reste le premier de la trilogie. Il y a pas mal de trucs qui m'ont gêné, Hora Singh et Hondo, le crash du Slave One. Je trouvais que c'était un épisode un peu facile et encore une fois un Boba Fett peut-être encore un peu trop gentil. Et je sais pas, il manquait vraiment quelque chose. On nous annonçait vraiment la fin de saison un peu explosive. Je n'ai pas trouvé ça. J'étais un peu déçu quand même du résultat. Et après, ben oui, donc mettre Boba Fett à 10 ans en prison, ouais, bon, il y a des limites quand même. Allez, Louis.
Pour moi, l'épisode est le moins bon épisode de la trilogie. Le Boba est toujours aussi sympa, mais là, on assiste quand même à beaucoup trop d'hésitation malgré tout. C'est la coupe d'eau qui fait déborder le vase. Puis bon, le crash du Slave One, c'est n'importe quoi. La séparation de Boba avec Hora, c'est n'importe quoi. Bref, ils ont tué la poule aux œufs d'or directement.
Bien, ben, on voulait passer donc rapidement sur un petit bilan de la saison. Donc chacun va y passer un petit coup. Donc on va commencer par Thomas. Vas-y Thomas, dis-nous un peu ton petit bilan rapide.
Alors moi, le bilan de cette saison 2, c'est que je l'ai trouvé bien meilleur que la saison 1. Pourquoi ? Déjà, premièrement, il y a un fil conducteur qui est un peu plus élaboré que dans la première. Dans la première, j'ai l'impression que ça partait un peu dans tous les sens, que là, on a eu pas mal de trilo, duo, quadrilogie même, et que globalement, on voit un peu une évolution des épisodes, et c'est un petit peu comme s'ils suivaient. En plus de ça, on a des éléments énormes qui sont arrivés, c'est tous nos super chasseurs de primes, que ce soit Hora Singh, que ce soit Boba Fett, que ce soit Boss, que ce soit le mec au chapeau, etc. Ça, c'est vraiment
Ben
génial.
Le mec au chapeau.
Non. Alors, il y a Cat Ben, et puis il y a aussi le mec au chapeau. Tu sais...
Gâteau parasite, peut-être.
Ouais, c'est celui qui lance son chapeau en...
Mbo.
Un peu ninja, là.
Mbo, voilà.
Voilà, c'est ça, merci. Donc ça, j'ai adoré. Autre chose que j'ai adoré, c'est voir les personnages mûrir, dans le bon ou dans le mauvais sens. Par exemple, Anakin, donc ça c'est le plus flagrant, qui commence à devenir un peu Dark Side, avec ses musiques à la Dark Vador, avec ses réactions à la con, de plus en plus. Le côté un peu sombre aussi de la série, d'accord, il y a plus de morts, etc. Et puis notre Ahsoka Tano qui finalement, si je l'aimais pas au début, ben Louis tu vas me détester, mais je commence à l'apprécier et je trouve que même elle est de moins en moins con, quoi. Autant elle était détestable au début, je trouve qu'elle est de plus en plus sympa, même si elle a pété le Slave One.
Non, mais ça va.
Et j'ai
dit par toi, on peut pas écouter.
Autre chose que j'ai adoré, c'est le fait qu'ils aient modélisé de plus en plus de Jedi. Là, on a quasiment presque tout le conseil Jedi de fait, plus des autres en bonus, comme Luminara, Barry Sophie, etc. Donc c'est vraiment du tout bon, on progresse. Je suis d'accord, et je vais être objectif pour une fois, que c'est très très loin d'un Star Wars, on va dire, saga, quoi, c'est-à-dire les films. Mais on tend vers quelque chose de bien, et je pense que le jour où on va arriver à l'Ordre 66, ça va envoyer du pâté. Voilà.
Bien, ma Pierre.
Alors, cette saison devait s'appeler, il me semble de mémoire, l'avènement des chasseurs de primes. On les voit honnêtement sur 7 épisodes. Moi, je vois pas en quoi c'est un avènement. On les voit au début, on les voit à la fin et un épisode au milieu. Donc pour moi, c'est pas vraiment la saison des chasseurs de primes. Ensuite, est-ce que cette saison-là est meilleure que l'autre ? Elle est meilleure que l'autre parce qu'il n'y a pas de Jar Jar. Ça, c'est un très bon point. Au niveau graphique, c'est sûr, c'est meilleur. Mais après, au niveau des scénarios, je trouve que c'est équivalent parce qu'on a quand même eu quelques grosses boulettes comme la trilogie des Mandaloriens où c'est quand même n'importe quoi de A à Z. On a eu quelques reprises scandaleuses de scénarios de Alien, de Godzilla, de ce qu'on veut. Et pour moi, c'est pas du Star Wars. Donc, il y a quand même quelques trucs qui m'ont quand même bien gêné sur le long. Après, c'est sûr qu'il y a quand même quelques efforts qui ont été faits de modélisation de nouveaux personnages. C'est quand même le minimum qu'on pouvait en attendre, donc je le mets un petit plus par rapport à la saison 1, mais c'est pas un gros plus, quoi.
Ben, je suis un peu pas d'accord. Je pense que les deux saisons se valent, parce que d'un côté, dans cette saison-là, il peut y avoir du très bon, comme on a pu avoir, je ne sais plus, je crois que c'était Landing at...
L'Arc de Geonosis.
Oui, voilà, il y avait vraiment une grosse belle baston assez impressionnante, mais après, tout d'un coup, t'as vraiment, comme disait Pierre, la trilo mandalorienne qui gâche vraiment un peu, qui est vraiment coupé pour moi l'ambiance de cette saison. En plus, comme c'était les épisodes de mi-saison, ça a vraiment fait une grosse coupure, et avec sa grosse incohérence, ça m'a vraiment un peu gâché la saison, quoi. Après, il y a d'autres épisodes que j'ai bien aimé, justement, The Lobbyist, elle était, surtout le second, j'ai bien apprécié. Mais après, techniquement, on avait tellement eu sur les Mandaloriens, et ça m'a vraiment, vraiment coupé un peu tout ça. Surtout qu'en plus, on a eu un épisode merdique, qui est Lightsaber Lost, qui est vraiment le pire.
Ah non, il est génial, cet épisode.
Avec le Jedi Poney. Oh,
ouais. Et le Patrolian.
Attends, en plus, les méchants, ils étaient trop charismatiques. Hein.
C'est clairement le plus mauvais épisode de la saison. Haut la main. Ça, y a pas. Après, on n'a pas. C'est sûr que, comme disait Pierre aussi, c'est qu'on n'a pas vu Jar Jar, qui était un bon point. Je pense que Louis va dire qu'on a un petit peu moins vu Ahsoka, que ça va lui plaire. Donc, mais sinon, après, on nous disait qu'on allait voir Anakin devenir bien plus sombre. Je l'ai pas tellement remarqué.
Bon, c'est à peine si on le voit.
Oui, voilà, donc je m'attendais un peu plus, mais sinon, elle est pas mal la saison, mais il y a vraiment trop d'incohérences. Je trouve qu'il y a plus d'incohérences encore que sur la saison précédente qui a un peu cassé mon enthousiasme. Allez, Louis, casse.
Bien, et ben, vous l'attendez tous, et ben, je vais faire ma critique de cette saison 2. Il y en a eu des épisodes pourris, hein. Ça, il y en a eu. Quand on pense à Lightsaber Lost, j'ai tout de suite envie de me tirer une balle dans le pied. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, c'est pas possible, quoi. Genre, le mec, il a été chercher un clochard, il lui a demandé d'écrire un scénario, quoi. Et résultat, on se retrouve avec un mec qui a une haine de poney.
Okay. J'aime quand t'es positif.
C'est des trucs, c'est horrible. C'est un petit peu comme la duo ou trilogie qui a de me rappelle plus au début. Aussi, c'est tout pourri, hein. Aller nous rechercher le cristal de Kibur, c'est pas possible. Mais on avait réussi à nous faire un personnage génial qui s'appelait Cad Bane. Et puis, ça y est, ils nous ont transformé, en espèce de chasseur de primes qui arrive plus rien à faire. Alors, il va capturer des brimbins, il fait des trucs pas possibles, ça ressemble à rien. Heureusement, juste après, on a eu notre trilogie Geonosis, qui était très très bonne. On a eu la seule vraie bataille qui existe finalement dans la guerre des clones. Puisqu'en fait, la guerre des clones s'est entièrement passée sur Geonosis, après le Clone Wars. Hein. Donc ça, c'était très très bon. On a eu les grosses frayeurs avec les bandeaux, ça s'est révélé pas mal. Ouais. On aurait pu croire que ça aurait pu être pire, mais finalement, on a évité le gros crash, moi, je pense. Et après, bon, bah voilà, on a des trucs tout pourris, The Lobbyist. Enfin, c'est pareil, hein, c'est des scénarios qui cassent pas trop patin le canard, ça se laisse regarder, c'est bien. Et puis on termine sur le chapeau droit avec un truc excellentissime, une trilogie Boba Fett, ce à quoi devrait ressembler The Clone Wars. Alors, c'est vrai que j'étais très critique sur cette saison 2, mais au final, quand on regarde, elle est quand même un cran au-dessus de la saison 1, parce qu'il y a plus d'épisodes qui attirent l'attention. Maintenant, c'est dû au fait que Ahsoka Tano n'est pas là. Hein? Ça aide, hein. Ça aide quand même quand elle n'est pas là, celle-là, hein. Qui arrête de nous emmerder, là, avec ses répliques de Francis Sou. Bon, bien sûr, elle nous a pourri la fin de la saison en faisant cracher le Slave One, quoi. Donc, ce qui annonce quand même du pâté pour la saison 3, hein. Commencez à craindre, commencez à avoir peur. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire.
Ma petite conclusion, donc on peut annoncer que c'est officiellement la fin de la seconde saison de The Clone Wars.
Non, c'est trop triste, putain, enfin on va être tranquille.
C'est donc notre dernière émission de ce côté-là pour le moment. On vous prépare un petit quelque chose pour la semaine prochaine, on n'en dit pas plus pour l'instant. Je pense que vous allez aimer.
Mystère.
Et donc, on peut noter que pour les intéressés, que la troisième saison de The Clone Wars devrait normalement commencer le vendredi 1er octobre de cette année.
Ouais, bah, moi,
je te laisse la parole.
Bon, à nouveau, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Et voilà, c'est fini, on remballe les gauches, ça y est, il n'y a plus rien. Et c'est tranquille, on vous donne rendez-vous en octobre. Et je pense que vous serez au rendez-vous pour cette troisième saison qui s'annonce super palpitante. En tout cas, c'est clair, quand on voit le teaser, ça donne envie. Hein. De la part de Thomas, Pierre-Henri et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.